Chapitre 3 La Dame Rose. C'est une chose qui me paraît bien certaine, mes chers enfants, dit-il en se tournant du côté de sa fille, que le soin que la Providence a daigné prendre de composer ma vie comme elle l'a été. Dans les orages sans nombre qui l'ont agité, je puis dire en face de toute la terre que je n'ai jamais manqué de me fier à Dieu et d'en attendre du secours, après m'être aidé de toutes mes forces. Aussi, vous dis-je, en marchant sur les flots agités, je n'ai pas mérité d'être appelé homme de peu de foi, comme le fut l'apôtre. Et quand mon pied s'enfonçait, je levais les yeux, et j'étais relevé. Ici, je regardais Timoléon. Il vaut mieux que nous, dis-je tout bas. Il poursuivit. Monsieur le curé de Montreuil m'aimait beaucoup. J'étais traité par lui avec une amitié si paternelle que j'avais oublié entièrement que j'étais né, comme il ne cessait de me le rappeler, d'un pauvre paysan et d'une pauvre paysanne enlevés presque en même temps de la petite Vérole que je n'avais même pas vue. À 16 ans, j'étais sauvage et sot, mais je savais un peu de latin, beaucoup de musique, et dans toutes sortes de travaux de jardinage, on me trouvait assez adroit. Ma vie était fort douce et fort heureuse, parce que Pierrette était toujours là et que je la regardais toujours en travaillant, sans lui parler beaucoup cependant. Et un jour que je taillais les branches d'un des hêtres du parc et que je lisais lié à un petit fagot, Pierrette me dit « Oh, Mathurin, j'ai peur. Voilà deux jolies dames qui viennent de vers nous par le bout de l'allée. Comment allons-nous faire ?» Je regardais et en effet, je vis deux jeunes femmes qui marchaient vite sur les feuilles sèches et ne se donnaient pas le bras. Il y en avait une un peu plus grande que l'autre, vêtue d'une petite robe de soie rose. Elle courait presque en marchant, et l'autre, tout en l'accompagnant, marchait presque en arrière. Par instinct, je fus saisi d'effroi, comme un pauvre paysan que j'étais, et je dis à Pierrette, « Sauvons-nous ?» Mais bon, nous n'eûmes pas le temps, et ce qui redoubla ma peur, ce fut de voir la Dame Rose faire signe à Pierrette, qui devint toute rouge et n'osa pas bouger, et me prit bien vite par la main pour se raffermir. Moi, j'ôtais mon bonnet, je m'adossais contre l'arbre, tout saisi. Quand la Dame Rose fut tout à fait arrivée sur nous, elle alla droit à Pierrette et, sans façon, elle lui prit le menton pour la montrer à l'autre dame en disant « Et je vous le disais bien, c'est tout mon costume de laitière pour jeudi. » « Oh, la jolie petite fille que voilà! Oh, mon enfant, tu donneras tous tes habits, comme les voici aux gens qui viendront te les demander de ma part, n'est-ce pas? Je t'enverrai les miens en échange. »« Oh, madame !» dit Pierrette en reculant. L'autre jeune dame se mit à sourire d'un air fin, tendre et mélancolique, dont l'expression touchante est ineffaçable pour moi. Elle s'avança, la tête penchée, et prenant doucement le bras nu de Pierrette, elle lui dit de s'approcher et qu'il fallait que tout le monde fût la volonté de cette dame-là. « Ne va pas t'aviser de rien changer à ton costume, ma belle petite, » reprit la Dame Rose, en la menaçant d'une petite canne de jonc à pomme d'or qu'elle tenait à la main. « Voilà un grand garçon qui sera soldat, et je vous marierai. » Elle était si belle que je me souviens de la tentation incroyable que j'eus de me mettre à genoux. Vous en rirez, et j'en ai ri souvent depuis en moi-même, mais si vous l'aviez vue, vous auriez compris ce que je dis. Elle avait l'air d'une petite fée, bien bonne. Elle parlait vite et gaiement, et en donnant une petite tape sur la joue de Pierrette, elle nous laissa là, tous les deux interdits et tout imbéciles, ne sachant que faire. Et nous vîmes les deux dames suivre l'allée du côté de Montreuil et s'enfoncer dans le parc, derrière le petit bois. Alors nous nous regardâmes et en nous tenant toujours par la main, nous rentrâmes chez monsieur le curé. Nous disions rien, mais nous étions bien contents. Pierrette était toute rouge et moi je baissais la tête. Il nous demanda ce que nous avions et je lui dis, moi, d'un grand sérieux, « Monsieur le curé, je veux être soldat. » Il pensa en tomber à la renverse, lui qui m'avait appris le solfège. Comment, mon cher enfant, me dit-il, tu veux me quitter? Oh, mon Dieu! Pierrette, qu'est-ce qu'on lui a donc fait, qui veut être soldat? Est-ce que tu ne m'aimes plus, Mathurin? Est-ce que tu n'aimes plus Pierrette non plus? Mais qu'est-ce que nous t'avons donc fait, dis? Et que vas-tu faire de la belle éducation que je t'ai donnée? Oh, c'était bien du temps perdu, assurément. Mais réponds donc, méchant sujet, ajoutait-il en me secouant le bras. Moi, je me grattais la tête et je disais toujours en regardant mes sabots, « Je veux être soldat. » La mère de Pierrette apporta un grand verre d'eau froide à M. le curé parce qu'il était devenu tout rouge et elle se mit à pleurer. Pierrette pleurait aussi et n'osait rien dire, mais elle n'était pas fâchée contre moi parce qu'elle savait bien que c'était pour l'épouser que je voulais partir. Et dans ce moment-là, deux grands laquais poudrés entrèrent avec une femme de chambre qui avait l'air d'une dame, et ils demandèrent si la petite avait préparé les hardes que la reine et madame la princesse de Lamballe lui avaient demandées. Le pauvre curé se leva si troublé qu'il ne put se tenir une minute debout, et Pierrette et sa mère tremblèrent si fort qu'ils n'osèrent pas ouvrir une cassette qu'on leur envoyait en échange du fourreau et du bavolet. Et elles allèrent à la toilette à peu près comme on va se faire fusiller. Or, seul avec moi, le curé me demanda ce qui s'était passé, et je le lui dis comme je voulais compter, mais un peu plus brièvement. « Et c'est pour cela que tu veux partir, mon fils, » me dit-il en me prenant les deux mains. « Mais songe donc que la plus grande dame de l'Europe n'a parlé ainsi à un petit paysan comme toi, que par distraction, elle ne sait seulement pas ce qu'elle t'a dit. Si on lui racontait que tu as pris cela pour un ordre ou pour un horoscope, elle dirait que tu es un grand benêt et que tu peux être jardinier toute ta vie, que cela lui est égal. Ce que tu gagnes en jardinant et ce que tu gagnerais en enseignant la musique vocale t'appartiendrait, mon ami. Au lieu que ce que tu gagneras dans un régiment ne t'appartiendra pas. Et tu auras mis l'occasion de le dépenser en plaisir défendu par la religion et la morale. Tu perdras tous les bons principes que je t'ai donnés, et tu me forceras à rougir de toi. Tu reviendras aussi, tu reviens, avec un autre caractère que celui que tu as reçu en naissant. Tu étais doux, modeste, tranquille, tu te souviendras rude, impudent et tapageur. La petite Pierrette ne se soumettra certainement pas à être la femme d'un mauvais garnement. Et sa mère l'en empêcherait quand elle le voudrait. Et moi, que pourrais-je faire pour toi si tu oublies tout à fait la Providence? Tu l'oublieras, vois-tu, la Providence? Ah, je t'assure que tu finiras par là. Oh, je demeurais les yeux fixés sur mes sabots et les sourcils froncés en faisant la moue. Et je dis, en me grattant la tête, ben, c'est égal, je veux être soldat. Le bon curé dit un pas, et ouvrant la porte toute grande, il me montra le grand chemin avec tristesse. Je compris sa pantomime et je sortis. Oh, j'en aurais fait autant à sa place, assurément. Mais je le pense à présent, et ce jour-là, je ne le pensais pas. Je mis mon bonnet de coton sur l'oreille droite, je relevai le collet de ma blouse, pris mon bâton, et je m'en allais tout droit à un petit cabaret sur l'avenue de Versailles, sans dire adieu à personne.